Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais, hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était dans sa chambre, sur son lit, ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans la Cour d'honneur saison 2 épisode 6, nous revoilà. Une émission de la bande Radio Sorbonne diffusée sur Radio Campus, bienvenue, on t'accueille dans notre amphi ici. Pas de TD, rien que des DM. Oui, n'hésite pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. RSU est là pour toi qui galère à trouver ta salle, toi qui galère à trouver des potes, toi qui galère à trouver un bar, à trouver une meuf. On connaît tous les meilleurs plans de la rive gauche, les histoires qui se racontent au Crous, les meilleures façons de gruger le métro et tous les lieux où tu pourras te chauffer gratis cet hiver sans dépenser un rein dans le chauffage de ta chambre de bonne. Ensemble, pendant une heure, on rejoue une fois par mois les meilleurs programmes de RSU, la radio étudiante de la plus vieille fac de France, sur la première radio étudiante de la capitale. Pendant une heure, on rejoue une fois par mois donc tous ces programmes avec de la culture, des rumeurs, du love et surtout du style. Avant tout, voici nos promesses avec une équipe bien déter pour vous servir. Bonsoir Cilia.
Moi ce soir je vais parler de la réforme des retraites vue par les étudiants.
Excellent, on a hâte de savoir ce que tu en penses. Laudine est à côté de toi. Bonsoir Laudine. De quoi est-ce que tu nous parles ce soir ?
Ce soir, je vous parle de la Coupe du Monde et du débat.
À côté de toi, il y a Oriane. Bonsoir, Oriane.
Bonsoir.
Bonsoir.
De quoi est-ce que toi, tu nous parles ?
Moi, je fais plusieurs choses et je vous emmène surtout dans une carte postale sonore à l'Abyss.
On a hâte de découvrir ça. En face de toi, Marjolaine. Bonsoir, Marjolaine.
Bonsoir. Moi, je ferai une petite chronique débrouille sur les lieux alternatifs ou étudier.
Et on n'oublie pas Sylvia avec nous. Bonsoir, Sylvia.
Bonsoir. Pour moi, c'est la revue de presse féministe avec beaucoup de news du monde féministe.
Excellent. Merci à toutes les 4, 5 autour du plateau. Tu es ici chez toi. Installe-toi. Prends place. Le décollage est imminent du haut de l'amphi. Au fond des chambres de bonne, bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Et pour bien commencer, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de RSU par Cilia.
Ouais. Eh bien, c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment facile.
Carte blanche.
Semaine, la réforme des retraites a mobilisé des milliers de manifestants il y a quelques jours, partout en France, le jeudi 19 janvier. 1,12 million de personnes sont descendues dans la rue, selon le ministère de l'Intérieur, plus de 12 millions pour la CGT, en plus des grèves dans les secteurs des transports, de l'énergie ou encore de l'éducation. Mais où sont les étudiants? Ont-ils été au rendez-vous? Que pensent-ils de cette réforme des retraites? À l'image des syndicats des travailleurs, les principales associations étudiantes, habituellement en débat ou en concurrence, se sont présentées cette fois unies avec les travailleurs pour manifester place de la République et défiler dans les rues de Paris. Ailleurs en France, on a aperçu dans les rangs des cortèges des jeunes appartenant à la FAGE, à l'UNEF ou à l'Alternative, des syndicats étudiants opposés au projet de réforme qui prévoit de repousser le départ à la retraite à l'âge de 64 ans. Parmi les principaux arguments d'Emmanuel Macron, il avance que les études supérieures sont de plus en plus longues et que les jeunes entrent dans la vie active plus tard qu'autrefois. Pourtant, de nombreux jeunes présents aux manifestations se sont empressés de rappeler que les études longues ne reflètent pas la situation de toute la jeunesse française, loin de là. Alors cette réforme, que le président de la République qualifie de juste et de nécessaire, est-elle un nouveau couteau dans le dos des étudiants ? On se rappelle évidemment des 2 années de Covid qui ont fait grandement souffrir les jeunes, confinement à répétition, isolement dans les chambres de bonne, précarité alimentaire, arrêt des jobs d'étudiants et évidemment les cours à distance et donc le décrochage scolaire et l'isolement social. Et puis il y a eu la fameuse phrase polémique d'Emmanuel Macron en janvier 2022, il y a un an, sur la gratuité de l'université. Il avait alors déclaré au congrès de la conférence des universités, je cite, « On ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, où un tiers des étudiants sont considérés comme boursiers et où pourtant nous avons tant de précarité étudiante. » Emmanuel Macron jugeait un système universitaire sans prix intenable. Et puis, face aux vagues de réactions révoltées, il était revenu sur ses propos en expliquant qu'on l'avait mal compris, qu'il n'avait jamais été question de rendre la fac payante, mais plutôt de faire payer les formations tout au long de la vie pour ceux qui souhaitaient les reprendre les études plus tard. Mais il ne suffit pas de corriger une déclaration pour faire disparaître un sentiment de méfiance des jeunes envers le gouvernement qui se sont estimés pour beaucoup délaissés pendant la crise sanitaire malgré leur grande précarité. Alors jeudi, aux manifestations, de nouvelles angoisses se sont faites entendre dans la bouche des jeunes. Comment entrer sereinement sur le marché du travail si les départs à la retraite sont retardés? Est-ce que les expériences de stage, d'alternance, de petits jobs ponctuels vont compter pour la retraite? C'est une fois de plus la question de la précarité étudiante qui revient sur le tapis avec ce projet de réforme. Dans un communiqué de presse, l'Alternative, une association étudiante, écrit « Le report de l'âge de la retraite va accroître le chômage des jeunes qui en sont déjà 2,5 fois plus victimes que la moyenne ». Un avenir donc qui ne rassure pas tout le monde. La gauche, et en particulier la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, a donc appelé à faire une marche de la jeunesse contre la réforme. Cette marche a eu lieu samedi à Paris, entre Bastille et Nation. Elle a rassemblé 150 000 personnes selon les organisateurs, 14 000 d'après le cabinet indépendant Occurrence. L'objectif, continuer de mettre la pression sur l'exécutif, qui n'a pourtant pas l'air de plier pour le moment.
Merci Célia, et n'oubliez pas que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
On revient sur le mondial de foot qui a connu un grand succès malgré les polémiques, Claudine.
Oui Thomas, si de nombreuses personnalités telles que Vincent Lindon, Virginie Despentes, Dua Lipa ou encore Shakira réclamaient le boycott de cette compétition très controversée, force est d'admettre que cela n'a pas eu l'effet escompté. D'autant plus que la France est allée jusqu'en finale, laquelle a été suivie par près de 24 millions de Français. Un succès qui était néanmoins annoncé dès le premier match avec 12,5 millions de téléspectateurs. Et l'audience du suivant n'a pas faibli. Je me suis rendue dans les bars de Poitiers, ce soir-là, pour rencontrer les supporters.
17h, samedi 26 novembre 2022, coup d'envoi du match France-Danemark. Si la Coupe du Monde au Qatar a un temps fait polémique et été très controversée, les bars et les cafés, remplis, semblent démentir toute préoccupation ou volonté de boycotter. Comment expliquer que les Français soient si nombreux à suivre une compétition qui va à l'encontre, pour la plupart, de leurs valeurs? Hypocrisie, inconscience, déni? Pour certains comme Hugo, dans le dilemme passion-raison, c'est la première qui l'a emporté.
Mais je suis tellement fan de foot que j'ai pas pu boycotter, mais si j'aurais aimé le boycotter, mais je suis trop fan pour pouvoir le faire.
D'autres, comme Arthur, se sont tout simplement laissés entraîner.
Au début, je voulais boycotter, et puis en fait, à chaque fois, je me fais traquenard, et puis là, ça fait des potes que j'avais pas vu depuis un an, non plus. Et on s'est fait un peu... je les ai suivis, voilà, c'est le con.
Mais pour Mathis et Louis, ses amis, boycotter n'a de toute façon pas d'impact.
Dans tous les cas, en fait, que je sois là ou pas dans un bar, ça change rien en fait que le match il est là et bon bah on va dans un bar, il y a le match, je pourrais rien faire, il y a le match.
Pour le coup, pour se dédouaner, le match tournerait aussi si on était pas là. Voilà.
En effet, cette Coupe du Monde est une chance pour les gérants des cafés et des bars. Une opportunité qu'ils ne peuvent pas ne pas saisir. C'est ce que nous explique le patron du Wallaby, un bar dansant dans la ville de Poitiers.
On va ouvrir un peu plus tôt. Normalement, on ouvre à 18h. Là, on a ouvert une heure plus tôt pour que les gens puissent venir. Après, c'est un événement tous les 4 ans. C'est quand même assez important pour nous, même si elle reste assez controversée avec tout ce qui s'est passé, comme vous le savez. Nous, voilà, c'est aussi notre gagne-pain. Les gens aiment l'équipe de France. Nous, on a besoin de travailler aussi. Après, oui, on a eu quelques messages. De personnes sur les réseaux sociaux qui n'étaient pas trop d'accord là-dessus, mais bon après ça c'est le jeu. On est un peu aussi contre ce qui s'est passé au Qatar, c'est vrai que c'est un peu, comme je dis, un peu particulier, mais bon nous on peut rien y faire, on a deux ans de Covid, nous on peut pas se permettre de tout boycotter quoi. C'est important pour nous et pour la survie de notre entreprise et la vie de tous nos salariés quoi.
Ainsi, pas de boycott massif de la part des Français, qui ne sont pourtant pas insensibles, comme nous avons pu le voir, aux conditions de réalisation de la compétition. Mais leur passion et les enjeux économiques sont si grands qu'il paraît impossible de ne pas projeter ou regarder le match à la télé. En témoigne l'audience qui n'a pas baissé. près de 11,6 millions de spectateurs pour le match France-Danemark sur la chaîne TF1, la seule qui retranscrit en clair le Mondial 2022. Selon elle, un véritable succès.
Alors, autour du plateau, est-ce que vous avez suivi les matchs ?
Oui, Marjolaine ?
De mon côté, surtout le dernier match un petit peu, parce que toute ma famille regardait, mais sinon, pas tellement.
Et toi, Sylvie ?
Effectivement, bien qu'au début, j'ai eu l'envie de boycotter, le regard passif que j'ai amené, ça m'en quand même part de ce boycott qui a mal tourné, on va dire. Ce qui en fait est très dommage.
Oui, on voit que beaucoup de Français avaient décidé de boycotter au début et finalement ne l'ont pas fait. On le voit, il y a même eu plus de téléspectateurs pour la finale 2022 qu'il n'y en avait eu en 2018 en Russie. 24 millions par rapport à 19 millions. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça en fait ?
De mon côté, je pense déjà à l'ampleur médiatique que le championnat mondial a, c'est énorme. Le fait que le foot soit devenu un fait culturel, c'est très important. Sachant aussi que la France est ex-championne du monde, ça ramène aussi beaucoup plus de public qui aimerait bien l'avoir couronnée deux fois et gagner une étoile de plus sur le maillot. C'est sûrement ça joue et du niveau économique et au niveau aussi de l'ampleur médiatique.
Bon, Sylvia dit pas aussi qu'elle aidait que l'Italie ne soit pas allée encore une fois.
C'est probable.
Non, Sylvia, Oriane, vous avez suivi. Est-ce que vous avez culpabilisé peut-être en regardant les...
C'est vrai qu'effectivement, moi j'ai suivi la finale et seulement la finale, et je l'ai suivi pour deux raisons. D'abord, j'avais planifié une leçon de conduite pour mon permis de conduire ce jour-là, et mon moniteur regardait le match pendant que je conduisais dans la voiture, donc j'étais vraiment contrainte de le regarder avec lui. J'ai fini par me garer pour qu'il puisse voir un but, et il a hurlé dans la voiture très enthousiaste et tout, donc je me suis laissée prendre un peu avec lui à son enthousiasme. Et ensuite, quand je suis rentrée à la maison pour la fin du match, effectivement, comme disait Sylvia, comme on a déjà été champion du monde et que je l'avais célébré la dernière fois en Italie avec des amis italiens, et ben on s'est appelé en visio pour pouvoir le voir ensemble à distance. Et cette fois, célébrer notre défaite, malheureusement.
Oui, effectivement, ça permet quand même de rassembler les Français après deux ans de Covid, où on a été éloignés les uns des autres, Lodine. C'est peut-être ça qui explique le fait qu'il y ait eu autant d'enthousiasme malgré les conditions écologiques, humaines qu'il y avait derrière l'organisation de cette compétition.
Oui, effectivement. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut suivre finalement les propos de Macron et dire qu'il ne faut pas politiser le sport, c'est la question.
Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs, ouais, Oriane ? Faut pas politiser le sport, c'est ce qu'a dit Macron.
Ouais, enfin moi j'y crois pas trop parce que pour moi le foot c'est de la politique, et justement Macron qui annonce qu'il faut pas politiser le sport et après qui vient ensuite physiquement pleurer dans les bras de Kylian Mbappé, c'est quand même louche quoi. Alors oui, on savait déjà que Macron était un gros fan de foot même avant son élection.
C'est vrai. Moi, on ne peut pas lui ôter ça.
Mais moi, ça m'a dérangé, quoi. En tant que président de la République, de se montrer publiquement...
Célia, l'image de Macron qui va réconforter Kylian Mbappé ?
J'ai trouvé ça un petit peu excessif et presque ça frôlait le ridicule parfois. Mais je comprends aussi que ce soit son rôle d'afficher un soutien à l'équipe nationale, de montrer qu'il est ému par ce moment à l'international aussi. Et ça me rappelle la question de est-ce que le sport est politique, très récemment, il me semble que c'était hier, Volodymyr Zelensky a demandé à Emmanuel Macron d'interdire pour les JO de 2024 que les athlètes russes puissent entrer en compétition. À ce sujet, moi je pense que les athlètes russes ne sont pas responsables de tous les actes du gouvernement, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, c'est légitime de remettre en question la participation des athlètes russes.
Oui, et puis la question aussi, c'est est-ce que finalement, les droits de l'homme, c'est de la politique ? Parce que c'est ce que les Allemands ont tweeté d'ailleurs. Peu après, alors eux, ils sont intervenus, ils ont voulu porter un brassard arc-en-ciel qu'on leur a interdit pendant le match. Et donc, sur la photo qu'on a prise officielle d'eux, ils ont mis la main sur leur bouche. Est-ce que la France aurait dû faire des gestes comme ça, un peu plus
Je pense, effectivement, quand on a des plateaux qui sont si vastes, on va dire, je pense que c'est là le moment de montrer notre implication.
Je pense que c'est quelque chose que l'Allemagne a très bien fait de mettre en avant, surtout avec un pays qui a à plusieurs reprises eu des comportements notamment homophobes, etc. Donc je pense que c'est une bonne façon d'intégrer, comme disait tout à l'heure Cilia, effectivement le sport est politique, on peut pas s'en cacher. Et donc c'est aussi le bon moment pour faire des bons gestes qui peuvent sensibiliser, notamment les spectateurs.
C'est intéressant aussi de voir à quel point la rediffusion a été adaptée à la culture et à la politique de chaque pays. On peut notamment citer Xi Jinping qui a fait le choix de rediffuser les matchs en floutant le public parce que les téléspectateurs ne portaient pas de masque alors qu'ils étaient en pleine crise de Covid. Donc oui, en France, on a eu une vision qui était vraiment révoltée pour la plupart, évidemment, pas pour tous, il y a quelques exceptions, mais pour la plupart révoltée par le fait que le Qatar soit un pays dans lequel les droits de l'homme et le réchauffement climatique ne sont pas du tout pris en compte. Mais ça, c'est pas du tout le cas partout dans le monde. Il y a des pays qui ont rediffusé très tranquillement la Coupe du Monde.
Oui.
Laudine, conclusion.
On peut se poser la question finalement. Bon, d'abord, on peut se demander si c'est le match qu'il faut boycotter ou pas le Qatar d'une façon générale et s'il ne faudrait pas tout simplement déjà arrêter de leur prendre leur gaz, leur envoyer des rafales, etc. Et puis ensuite, pour terminer sur une note positive, on peut se dire que bon, la Coupe du Monde a certes valorisé un pays autoritaire, mais elle l'a aussi forcé finalement à faire des progrès. Humanitaires et sociaux. Donc, c'est toujours un petit pas, c'est mieux que rien.
Peut mieux faire. Vous êtes bien dans Cour d'honneur. Cela fait plus de 10 ans que Breakbot et Earphane collaborent ensemble. On les a découverts avec leur tube planétaire Baby Amio, c'était en 2010. Un groove qu'ils n'ont pas perdu la preuve avec leur dernier single, ça s'appelle Remedy. Cours d'honneur sur Radio Campus Paris, on parle de la vie de la Sorbonne et de l'actualité des étudiants.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Sébastien Kless, professeur associé à la Sorbonne, spécialiste de la communication et responsable du master conseil éditorial. Bonjour, c'est bien Stéclès.
Bonjour.
Alors, en octobre 2022, le Conseil économique, social et environnemental a lancé une convention citoyenne sur la fin de vie qui devrait aboutir à un texte de loi en 2023. À cette occasion, vous avez participé à des débats organisés par l'Espace éthique Île-de-France autour notamment de la question très polémique en France du suicide assisté. Comment les concertations citoyennes peuvent-elles trouver des réponses à des questions aussi polémiques?
Alors, merci de me donner l'occasion de parler sur ce sujet brûlant, puisque on est actuellement en train d'organiser des concertations citoyennes, des consultations citoyennes avec des lycées, avec des lycéens, sur cette question de la fin de vie, pas uniquement du suicide assisté, mais aussi de l'euthanasie, les soins palliatifs, la limitation des traitements, les directives anticipées. En réalité, il y a beaucoup de questions à traiter sur ce sujet de la fin de vie, et on se limite souvent au suicide assisté ou à l'euthanasie, alors qu'il y a de très nombreux sujets à envisager, et il y a une évolution possible de la loi aussi sur ces sujets. Et c'est bien là que je voulais en venir, puisque avec les lycéens, ou dans le cadre du débat public organisé par l'Espace éthique Île-de-France, l'idée n'est pas du tout de proposer des recommandations ou d'arriver avec des propositions qui seraient élaborées par des lycéens en quelques séances de travail. Ça serait peut-être un peu prématuré, parce qu'il faut prendre en compte la parole des professionnels, l'expérience des familles, la parole des personnes concernées également. Mais ce qu'on peut faire dans le cadre d'un débat public dans notre structure qui est l'Espace éthique Île-de-France, c'est peut-être identifier les enjeux qui se posent aujourd'hui sur cette question de la fin de vie, identifier les positions en présence sur ces enjeux, les valeurs qui sont en jeu, les représentations qu'on peut avoir sur ces évolutions de la loi ou sur la manière dont on meurt en France aujourd'hui, et de sorte qu'on puisse structurer le débat et donner une forme intelligente au débat, donner une intelligence au débat, c'est-à-dire identifier les vraies questions, les vrais enjeux, parce que les enjeux qui se posent aujourd'hui sur la fin de vie ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 ans, ne sont pas les mêmes qu'il y a 50 ans. Et donc, c'est déjà un travail d'identifier les vrais enjeux, si on ne veut pas se répéter, et ensuite d'identifier quelles sont les propositions, quelles sont les idées des lycéens, et quels sont les arguments en présence. Et faire cette cartographie, ce qu'on appelle la cartographie des controverses, en s'inspirant de la méthode de Bruno Latour, bah finalement, c'est notre résultat. C'est comment est-ce qu'on donne une forme au débat ? Comment est-ce qu'on va structurer le débat ?
D'accord, donc l'ambition de ces concertations citoyennes, c'est plus la discussion en elle-même que le fait d'aboutir à un consensus grâce au débat public.
Dans le cadre de notre débat public, à l'Espace éthique Île-de-France, c'est pas la même démarche au Conseil économique, social et environnemental, mais en tout cas, à l'Espace éthique Île-de-France, l'idée est de mieux structurer le débat. Parce qu'on constate souvent qu'on en reste à des opinions qui sont les opinions premières, à de l'ordre du sentiment, et finalement à des oppositions qui parfois peuvent s'atténuer ou se renforcer en discutant les uns avec les autres. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que nous, notre démarche, elle est moins d'aboutir à un consensus qu'à des désaccords féconds, en s'inspirant du philosophe Patrick Vivray.
Oui.
Et ce philosophe, il nous dit que l'idée dans une démocratie, c'est pas d'aboutir à un consensus à tout prix, mais d'aboutir à des désaccords féconds, c'est-à-dire de donner une forme au débat et de donner une forme à nos antagonismes pour s'opposer sans se massacrer, comme dit Marcel Mauss, le sociologue Marcel Mauss, s'opposer sans se massacrer sur un terrain commun qui est le terrain politique, démocratique. Où certes la loi va évoluer d'une manière ou d'une autre, ou ne pas évoluer si la décision est de ne pas y toucher. Ça, on ne le sait pas encore. Mais en tout cas, ça sera de l'ordre du politique. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est de faire en sorte que nos concitoyens se comprennent mieux dans les positions qui sont échangées, et d'identifier surtout les vrais sujets.
Oui. Ces deux dernières années, on peut dire que le débat public autour des questions de santé a été très important, notamment à cause de la pandémie du coronavirus. Comment est-ce que, du point de vue de la communication, vous pourriez expliquer la très grande défiance des Français face au vaccin en France ?
Alors, il y a une défiance vaccinale qui a été très étudiée depuis de longues années. Cela dit, on peut modérer cette défiance qui est bien existante en se disant qu'en quelques mois, il y a eu 52 millions de Français vaccinés. C'est là qu'on voit la force de la communication et également, si on peut dire, l'impact qu'elle peut avoir dans la vie des gens. parce que à la fois on pourrait se féliciter en disant que la communication a extrêmement bien fonctionné sur les lieux où on peut se faire vacciner, pourquoi se faire vacciner, quels sont les tranches de la population à chaque étape qui peut se faire vacciner. C'est des processus quand même complexes en termes d'organisation et en termes d'information. Donc on pourrait dire, ah, 52 millions de personnes vaccinées, ça veut dire que la communication a bien fonctionné. Quand on regarde les sondages, notamment un sondage qui avait été fait dans le cadre des Assises nationales du journalisme à Tours en 2020, on se rend compte que les Français ont trouvé que cette communication était parfois excessive, catastrophiste, qu'elle était angoissante, qu'ils avaient l'impression que les médias en faisaient trop pour faire de l'audience. Donc on voit quand même que la communication gère des sentiments, voire des ressentiments, qui peuvent générer des contre-coups. Donc je pense que à la fois ça montre la force de ce que peut être une communication de masse, et en même temps sa très grande faiblesse, c'est-à-dire qu'une communication doit se faire aussi dans une logique interpersonnelle, une logique de médiation, pour ne pas engendrer beaucoup d'effets secondaires et très anxiogènes sur des personnes qui peuvent être concernées, comme par exemple les diabétiques, les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap.
Oui. Et est-ce que, selon vous, la France a réussi à maîtriser cette communication scientifique pendant la pandémie, puisqu'on a observé quand même que dans l'espace médiatique, tout semblait se valoir, autant la formation médicale que les opinions?
Alors, le propre de l'espace public, c'est que justement, c'est un espace de rencontre. Alors, c'est un espace de rencontre et il y a toujours le risque de la rencontre. Là où parfois on a manqué de clarté, c'est le moment où certains médecins portent une parole politique sous couvert de leur responsabilité ou de leur connaissance médicale, et inversement, le moment où des politiques portent des discours médicaux sous couvert de leur responsabilité politique. C'est là qu'il y a un brouillage, finalement. Et c'est là qu'il y a une responsabilité des journalistes, peut-être, à accepter qu'un médecin ait une opinion qui engage des mesures à mettre en œuvre, mais qui sont des mesures qui relèvent d'un choix politique, d'un choix collectif. Mais peut-être qu'il y a une responsabilité du journaliste à dire « Ah, mais voilà, à ce moment-là, de signaler que ça relève du choix politique et que ça ne relève plus de l'expertise médicale. » Il y a peut-être un tri, même au sein d'une même interview, à faire entre l'expertise médicale et l'avis politique d'un médecin ou d'un expert.
Oui.
Je pense que c'est là que la question a pu se poser.
D'accord. Et une petite dernière question traditionnelle dans cette émission. Qu'est-ce que représente la Sorbonne pour vous, dans votre vie, dans votre parcours?
Alors, la Sorbonne, elle représente beaucoup pour moi, puisque finalement, c'est comme si je ne l'avais jamais quittée, puisque j'ai fait mes études ici en master d'éthique et de philosophie politique. Et puis ensuite, j'ai enseigné au sein du master conseil éditorial, et puis maintenant, je suis responsable de ce master. Donc finalement, cette institution, elle m'a vu grandir, et puis je l'ai vu évoluer, et ça fait extrêmement plaisir aussi de voir ces institutions changer, se développer, et accompagner l'ère du temps, précisément accompagner ces changements et cette implication des chercheurs dans le débat public aussi, qui semble aujourd'hui plus que jamais importante.
Merci Sébastien Claes d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.
Merci.
Sébastien Claes, reçu dans Cours d'honneur par Cilia. Il est 20h passé de 23 minutes sur Radio Campus Paris. Place maintenant à la débrouille.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, la table!
Avis aux étudiants qui en ont assez de bûcher des heures à la BIS, à la bibliothèque Sainte-Geneviève ou à la bibliothèque tout court. On vous présente aujourd'hui quelques lieux de travail alternatifs, car changer de cadre, c'est important, Marjolaine.
Tout à fait, Thomas. On commence avec le QJ pour quartier jeune, qui a été ouvert en septembre 2021 par la mairie de Paris. Des locaux entiers dédiés aux jeunes en plein cœur du premier arrondissement, dans l'ancienne mairie, un cadre plutôt sympathique. Vous y trouverez des salles de travail partagées en libre accès et bien sûr, un espace dédié à l'incontournable pause café. Petit plus, l'accès à une terrasse donnant plein feu sur le Louvre. Le QJ est ouvert toute la semaine ainsi que le samedi après-midi. Ensuite, impensable de ne pas évoquer la MIE, Maison des Initiatives Étudiantes, qui, au-delà de proposer de multiples salles de réunion pour les associations, en met également certaines à libre disposition des étudiants en journée. Ainsi, à la MIE Labossis de la rue de Rennes, l'espace événementiel se transforme en journée en un gigantesque espace de coworking, pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes. Enfin, autre alternative un peu plus onéreuse, les désormais incontournables cafés de coworking. Ils se multiplient comme des petits pains sur Paris, mais voici quelques enseignes pour vous faire découvrir ce monde merveilleux. Le Café Nuage, à quelques pas de la Sorbonne, propose un petit havre de paix avec nourriture et boissons incluses en illimité pour 5 euros de l'heure. Un tarif étudiant est même proposé pour la journée à 24 euros. Dans la même veine, la chaîne d'Anticafé, présente sur Paris et les grandes villes de province, se veut comme un espace hybride entre ambiance de café et confort de la maison. À Beaubourg, République, au Louvre ou encore aux abords du canal Saint-Martin, vous pouvez travailler dans un anticafé pour 5 euros de l'heure, tout en profitant également de spécialités culinaires à volonté. Seul risque, passer plus de temps à profiter des boissons et encas en illimité qu'à réellement travailler.
Ben voilà, si avec ça on n'a pas des super résultats au partiel, parce qu'on a bien révisé dans des cadres très sympathiques tous les détails par Marjolaine. Vous êtes bien sur cours d'honneur. Allez, on a du courrier.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
Qui dit rentrée dit bûcher. Et désormais, Oriane vous emmène avec elle faire un tour de la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne-Mer, un lieu calme, propice au travail, où tous les étudiants, à partir de licence 3, eh bien, ils peuvent potasser leurs manuels, les essais, les autres ouvrages. Dans cette carte postale sonore, tendez bien l'oreille, stylo et clavier se rencontrent.
Bon bah écoutez, là, je vous emmène avec moi à la BIS, à la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne. Et là, on est dans le couloir, et vous allez voir la différence de bruit.
Bonjour.
Bienvenue à la BIS. Personne n'a remarqué ma venue. Et là, je suis dans l'escalier T2, niveau D, qui je pense était l'ancien escalier, vu qu'il y a écrit bibliothèque de l'université sur la porte principale. Donc j'imagine que c'était là, c'était par là que l'on montait avant. C'est ça qui est fou à la Sorbonne, c'est qu'il y a des trucs hyper modernes, alliés à des trucs super anciens. Ce qui est bien à la BIS, c'est qu'il y a plusieurs salles. Il y a la salle Jacqueline de Romilly qui est la plus grande, avec des petits luminaires et des grandes œuvres. Et ensuite, il y a plein de petites salles qui ont chacune leur thème. Je sais que la salle Jacqueline de Romilly, c'est la principale avec la littérature. Notamment la religion et l'art, je crois. Et les autres, ensuite, c'est, étant donné qu'on a la faculté de lettres, c'est quand même vachement... je sais qu'il y a une salle d'histoire, une salle philo, la salle Aristote. Effectivement, la salle Labrousse, c'est l'histoire moderne et contemporaine. Et la salle Fustel de Coulanges, c'est l'Antiquité et le Moyen-Âge. Il y a aussi à la BIS un espace détente, mais qui est fermé actuellement. Et il y a aussi la possibilité de réserver des salles pour étudier en groupe. C'est un vrai labyrinthe. Je ne sais pas où je suis. J'essaie de me retrouver. C'est une carte postale sonore un peu étrange que je vous propose, étant donné que la bibliothèque est un lieu souvent silencieux. Et en fait, on remarque qu'il y a mille et un bruits, mille et un détails de stylos, de claviers.
C'est C'est cool de travailler à la BIS. Ambiance feutrée ce soir dans Cours d'honneur sur Radio Campus Paris. On se retrouve juste après les rayons gamma de PR2B, Pauline Rambaud de Barallon de son vrai nom. C'est sorti en octobre 2021.
Minuit, soleil, tête sur la vitre, j'ai pas sommeil. La city dort depuis 6 mois. Tu sais vraiment n'importe quoi ce qu'on vit, dis-moi, minuit, Marseille. Je voudrais bien que la vie se réveille, qu'elle remplisse tout d'un feu grisant, qu'on n'entende que les pneus qui crissent, la vie reprend. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà, sans les rayons gamma. Alors, si on changeait tout ça, je sais qu'on survivra, comme les rayons. Coule sur l'oreiller et moi je me retiens encore une fois de pleurer. Minuit pareil que les chiens qui se la coulent belle, 18 carats sur le collier et la même envie insoutenable de s'évader. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà sans les rayons.
Les rayons gamma de PR2B, c'est sur Cours d'honneur, la saison 2, sur Radio Campus Paris, épisode 6. On accueille notre deuxième invité de la soirée, c'est avec Sylvia.
Oui, oui, la petite instant, voulez-vous voir
A. Il faut trouver la voie.
Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Reynad Abad, professeur d'histoire moderne à Sorbonne Université et membre du centre Roland Mounier, centre pour la recherche historique. Merci d'être venu, Reynad Abad.
Merci de m'avoir invité.
Aujourd'hui, vous êtes en pleine écriture d'une biographie concernant une figure énigmatique et encore peu connue, l'abbé Miolan. C'est le 11 juillet 1784, quand au jardin du Luxembourg à Paris, un ballon aérostatique essaie de prendre l'envol. Qui est cet abbé Miolan dont on a si peu entendu parler ?
En fait, c'est un individu qui fait partie de la grande vogue de l'aérostation des années 83, 84, 85, qui submerge en quelque sorte la France à cette époque-là. En effet, les ballons sont inventés en fait en 1783 en France, et ça donne lieu à de très nombreuses expériences aérostatiques, ce qu'on appellerait aujourd'hui tout simplement des envols, mais qui sont encore assez largement expérimentaux. Et donc cet individu fait partie de tous ceux qui s'intéressent aux ballons en 1783-84 et qui décide en 84 avec un associé d'organiser lui-même un lancement de ballon, et précisément d'un ballon auquel il veut apporter beaucoup d'innovations technologiques. Et malheureusement pour lui, en fait, cet envol est un fiasco.
Les documents dès l'époque, notamment les billets caricaturaux, montrent un vrai acharnement contre donc ces deux physiciens, notamment Jeannine et Jean-François, qui est son collaborateur. Pourquoi autant de mépris pour cette expérience échouée ?
En fait, le mépris vient en grande partie du fait que l'expérience a attiré énormément de monde. On estime en effet qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont assisté à l'expérience aérostatique ou assisté à ce qui devait être un envol de ballon. Des gens qui, pour certains d'entre eux, avaient payé d'ailleurs pour y assister, et parfois assez cher. Et par conséquent, il y avait un très fort mécontentement en fait de la part des spectateurs qui avaient été à leurs yeux grugés par le mauvais physicien. Et puis de manière plus générale, alors que l'aérostation connaissait beaucoup beaucoup de succès, il a offert une figure en fait de raté dans une grande galerie d'hommes à succès, et ça a motivé effectivement des caricatures extrêmement violentes, mais dans un univers de toute façon où la satire à Paris dans l'opinion publique du XVIIIe siècle est très vigoureuse, et pas seulement contre les aérostiers manqués, mais contre tous ceux qui peuvent faire l'objet de la critique de l'opinion publique.
Vous parlez justement de caricature, et effectivement l'abbé Miolan, on le voit souvent représenté sur les illustrations de l'époque en chat. Quelle est la raison derrière cette représentation caricaturale ?
Ça vient tout simplement du fait que son nom était Miolan, qui s'écrivait M-I-O-2-L-A-N, mais miaulant est très très proche de miaulant, du verbe miauler pour le chat, et par conséquent beaucoup de caricaturistes ont fini par adopter la figure du chat en fait pour le représenter, et lui-même est devenu dans de très très nombreuses caricatures, mais aussi dans de nombreuses chansons ou dans de nombreux poèmes, la figure du chat, tandis que son associé lui avait hérité de la figure de l'âne en fait, dans bien des caricatures.
Effectivement, on voit souvent des attaques presque à la figure du physicien. Est-ce que cela se restreint justement à ces deux figures, ou est-ce que cela peut être aussi un mécontentement général par rapport à la figure du physicien justement ?
Alors, mécontentement général, non, mais en revanche, il y a une autre figure qui va faire l'objet d'une satire extrêmement virulente aussi à la même époque, qui est tout à fait contemporain, c'est le médecin Mesmer, qui n'est pas tout à fait un physicien, mais qui se présente comme un médecin et qui vous proposait à l'époque des guérisons peu ou prou miraculeuses avec des méthodes qui étaient jusque-là inédites aux yeux des médecins ou des hommes de l'art en général. Et donc, il y a autour de Mesmer la figure du charlatan, en fait, qui se développe considérablement, qui réinvestit tout un vieil imaginaire du charlatan de foire, mais avec une figure désormais beaucoup plus neuve, puisque cette fois, Mesmer propose, en fait, une théorie médicale et physique inédite. Et donc, la figure du charlatan est tout d'un coup révolutionnée, remaniée, remise au goût du jour, sous une autre forme. Et malheureusement pour lui, le pauvre abbé Miolan est, lui, pris en quelque sorte dans ce contexte-là, qui est celui d'une méfiance et aussi d'une moquerie à l'égard d'hommes qui proposent, en fait, ou des théories ou des pratiques neuves dans le domaine médical ou scientifique. Et donc, ils sont un peu les deux charlatans de 1784 aux yeux d'une partie de l'opinion publique.
Effectivement, on voit donc l'importance de ces inventions à cette époque, notamment l'invention donc du ballon aérostatique qui, selon le Mercure de France, aurait amené à des expériences savantes dans l'atmosphère. Je vous demande à quoi auraient pu mener ces expériences à l'époque. Quelle était l'importance de ces expériences pour les gens de l'époque ?
En fait, le ballon lui-même est inventé au départ sans objectif précis. Il n'y a pas d'idéal scientifique attaché précisément au ballon lui-même. C'est un peu une découverte hasardeuse. Mais très très vite, à mesure que les ballons se multiplient, on cherche à la fois à améliorer les ballons, ce que voulait faire Miolan. Il proposait une nouvelle forme de ballon avec une nouvelle forme, je dirais, de construction. Mais par-dessus le marché, très vite, on se demande à quoi servent les ballons. Et certains proposent, et c'est le cas de Miolan lui-même d'ailleurs, ils proposent d'en faire une sorte de station scientifique d'altitude, c'est-à-dire de faire des expériences en altitude, ce qu'on n'a jamais pu faire. Donc ils se proposaient par exemple d'essayer de mesurer l'électricité statique dans l'air à haute altitude. Ils se proposaient d'essayer de mesurer la vitesse des vents. Ils se proposaient d'essayer de mesurer évidemment les températures, la pression. Bref, toutes sortes de choses qu'on ne pouvait pas faire au niveau du sol et qu'on imaginait pouvoir faire en l'air, ce qui supposait d'embarquer évidemment certains appareils scientifiques pour procéder à ces expériences. Mais dans l'ensemble, ces expériences d'altitude ont été assez limitées parce que la principale difficulté a déjà été de faire décoller les ballons et ensuite de réussir ce qui était le grand rêve, à se diriger avec des ballons.
À ce propos, on voit aussi Blanchard qui avait effectué le voyage sur la Manche quelques années plus tard. Est-ce que cette figure donc fait un peu contraste avec Miolan et Jean-François ?
Alors, Blanchard est une figure d'aérostie à succès, en fait, ce que serait peut-être devenu Miolan, qui est devenu véritablement un homme qui a vécu en partie de ses envols aérostatiques, qui en a organisé énormément, qui a effectivement fait des parcours sur assez longue distance, pas toujours bien maîtrisés dans leur direction, mais des parcours sur longue distance, et lui est devenu une figure qui n'était pas vraiment celle du physicien, mais qui était plutôt celle de l'homme de spectacle, qui proposait en fait des envols qui étaient très impressionnants pour l'époque, à voir et à suivre du regard, et il est devenu une sorte d'homme de spectacle qui a organisé des expériences aérostatiques en France, mais aussi en Grande-Bretagne, et quelques autres comme lui ont fait une sorte de carrière d'aérostier pour le public, en quelque sorte. Encore distincte de ceux qui étaient véritablement, on va dire, des chercheurs ou des savants qui cherchaient véritablement à améliorer les aérostats, le grand enjeu étant de pouvoir les diriger, ce qu'on ne savait pas faire, et ce qu'on ne sait d'ailleurs toujours pas faire véritablement, puisqu'on ne sait pas véritablement se diriger avec des ballons vers une destination précise, ce qui était le grand rêve de l'invention de l'aérostation, c'est-à-dire non seulement voler dans les airs, mais réussir à se diriger précisément vers un lieu déterminé.
Dernière question pour vous, qui représente pour vous la Sorbonne ?
La Sorbonne, c'est ma maison, si j'ose dire, à la fois parce que j'y ai été étudiant et parce que j'y suis devenu enseignant très jeune. Et donc, c'est le lieu véritablement de toutes mes expériences professionnelles, en quelque sorte. C'est le lieu où je travaille avec les étudiants aussi, que ce soit en premier cycle ou en second cycle, ou même au-delà en doctorat. Et donc, oui, il n'y a pas d'autre mot pour résumer la situation, c'est ma maison.
Merci beaucoup, Rinald Abad, pour votre intervention.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Gentlemen. You had my curiosity, but now you have my attention.
Et le mercredi, c'est la journée des sorties ciné en France. À cette occasion, Oriane s'est demandé si les étudiants se déplaçaient toujours dans les salles obscures. On la suit entre la Sorbonne, la rue Champollion et la rue de l'École de médecine à la rencontre d'étudiants et de professionnels du cinéma afin de nous éclairer justement sur la fréquentation des salles.
Mercredi, 18h, fin des cours. Il pleut des cordes.
Ça aurait été sympa d'être chez moi, de lancer Netflix et de me lever dans mon canapé lit. Je remarque les rues autour de la Sorbonne. Quelques personnes attendent l'ouverture des portes du cinéma. Parmi eux, peu, voire pas d'étudiants. J'adore aller au cinéma, mais j'avoue que le fait d'être tranquille à la maison ne me déplaît pas non plus. Je me demande alors quelles sont les habitudes des étudiants de la Sorbonne. Je pénètre dans la galerie Richelieu, où j'y rencontre Lorraine, actuellement en fin d'études. Elle assume qu'il est moins contraignant de regarder un film à la maison que d'aller au cinéma.
Oui, c'est vrai que les plateformes de streaming ne m'ont pas vraiment poussée à sortir, et le confinement n'a pas aidé non plus avec le fait d'avoir l'habitude de rester chez soi, et maintenant sortir ça devient un peu plus compliqué, donc je reconnais que je vais beaucoup moins au cinéma qu'avant.
Manon, étudiante en master d'édition, continue d'aller au cinéma, moins souvent qu'avant, davantage pour une histoire d'emploi du temps que de budget.
Je vais pas mal au cinéma, j'y vais peut-être un petit peu moins maintenant que c'est moi qui paye ma place tout simplement et que c'est plus mes parents, mais j'essaye quand même d'y aller assez régulièrement et d'aller voir des choses assez diverses, et aussi parce que j'aime aller voir plein d'autres choses, des concerts, des ballets, et j'essaye de répartir un petit peu pour des expos, etc., pour me nourrir vraiment culturellement.
Amandine, étudiante en cinéma d'animation, s'indigne face à la baisse de fréquentation des salles, notamment par ses camarades de classe.
Je veux dire, même dans mon petit groupe d'école de cinéma, les gens ne vont pas au cinéma. Ils préfèrent attendre le streaming, etc. Ouais. Et même en études de cinéma d'animation, personne dans mon entourage ne va voir ces films. Je trouve qu'on a la chance en France d'avoir des cinémas qui passent, tout type de production, que ce soit le cinéma indépendant, le cinéma européen, le cinéma international.
Je me faufile entre les portes du Reflet Médicis, cinéma d'art et d'essai de l'étroite rue Champollion, et interroge Thibaut, projectionniste. Pour lui, la localisation du cinéma et la programmation attirent toujours, mais parfois de façon éphémère.
Ici, dans cette rue notamment, on est un peu épargné par, les conséquences du Covid, dans la mesure où on a un public qui ne va pas vraiment sur Netflix. Il y a toujours eu beaucoup d'étudiants qui viennent ici. Moi, j'entends beaucoup de gens me dire, quand je suis ailleurs et que je dis que je travaille au Reflet Médicis, me dire « Ah, il y a un moment où j'y allais tout le temps, pendant un ou deux ans, et en fait c'est marrant de voir que les étudiants ils sont là, un ou deux ans, et après ils disparaissent. Mais ce qui est beau et ce qui se perd beaucoup aussi, c'est l'idée de se laisser surprendre d'aller dans une salle sans savoir vraiment ce qu'on va voir, et en se disant bah voilà, peut-être que ça va être nul, peut-être que ça va être bien, et souvent on peut avoir des bonnes surprises.
Arnaud Boileau, directeur du cinéma Le Nouvel Odéon, me confie ses solutions pour pallier la baisse de fréquentation des salles. Il a trouvé la clé. Collaborer avec les universités et écoles supérieures de la capitale.
J'ai essayé de trouver des interlocuteurs dans le BDA. Et essayer de nouer des partenariats. On a un tarif réduit pour tous les étudiants qui est à 8 euros, mais sur des événements, je propose un partenariat, c'est-à-dire que je propose un tarif encore moins cher à 6 euros pour les étudiants, et en échange, je demande au BDA, à mes partenaires, de relayer soit un mail, soit faire un post Instagram, soit un post Facebook. Tout le monde est convaincu de la salle. Il y a quand même surtout à Paris, il y a quand même des cartes communes, la carte des cinémas indépendants parisiens. Ça revient à 6 euros la place, grosso modo, 6 euros, 6,50 euros la place, c'est valable dans 28 cinémas. C'est comme si on était une chaîne de cinéma. Je pense que dire il passera sur Canal dans 6 mois, dans 9 mois, oui, on le verra dans 9 mois, peut-être sur un vidéoprojecteur, sur une grande télé, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'exploser dans une salle et de couper de tout.
Mon parcours touche à sa fin. Je prends la direction du RERB, une affiche de film capte mon attention. Tiens! Si j'allais au ciné ce soir.
Et quelle magie, les films au cinéma quand même, tout seul dans la salle obscure autour du plateau. Il y en a qui vont des fois au ciné. Là, récemment, le dernier film qui vous a plu, Cilia.
Dernier film qui m'a plu. Mais du coup, je viens de dire que je vais beaucoup en salle et le dernier film que j'ai vu, c'était en streaming chez moi dans mon lit.
Ah ben voilà. Non, les filles, dernier film en salle, c'est quoi celui que vous avez vu, Sylvia?
Babylone.
Franchement, pas mal. On valide, ouais. Cool, Damien Chazelle, excellent. Margot Robbie, Brad Pitt, les filles. On va le voir, Babylone, Marjolaine.
Alors moi j'ai très envie de le voir, mais j'ai eu des avis assez partagés dessus. Mais je compte y aller ce week-end.
Tu fais confiance aux avis partagés?
C'est plutôt positif, si le film fait parler de lui, c'est que
ça fait réagir alors.
Ouais, moi j'ai très envie de le voir parce que Damien Chazelle, c'est le réalisateur de La La Land.
Ah voilà. Et... toi tu retiens La La Land. Moi c'est pas du tout ce film-là que je retiens parce que je suis pas fan des comédies musicales, mais.
Pardon.
Oui.
Dernièrement, il y a quand même Avatar qui a hyper bien marché.
Ah, j'ai pas vu le 1 non plus.
Les gens qui vont pas au cinéma se sont rués vers ce film pour voir le 2. Et du coup, ils ont revu le 1, mais sur les plateformes. Mmh. Donc ça se partage un petit peu pour Avatar.
Oui, c'est vrai que moi, j'ai pas vu le 1, donc j'irai pas voir le 2. Mais en revanche, je suis pas un fan de La La Land, mais j'ai un trou. J'ai préféré 100 fois son premier film avec le batteur.
Whiplash.
Whiplash, merci. Exactement. Allez, on s'écoute maintenant un peu de musique. C'était en 2021, le grand retour de Fauve, le groupe musical sous une autre couverture, Magenta, avec son tube Monogramme sur Radio Campus Paris.
Dans le flot de mes pensées qui se télescope, je distingue maintenant un constat naze et je sens mon anxiété qui cogne à la porte. Mais je sais plus comment faire face. Mon moi, j'ai pas signé. J'ai pas signé pour ça.
Monogramme, le
Madame,
tube
Monsieur,
de Magenta,
bonjour,
c'est
et bienvenue
bien
à
sûr
vous.
Radio
Allez,
Campus Paris.
Dans la revue de presse.
C'est féministe.
We are pure, we are strong, we are brave, and we will fight.
De la France à l'Angleterre, ces premières semaines du mois de janvier ont été mouvementées. La réforme des retraites touche tout le monde, mais surtout les femmes qui se trouvent en condition d'inégalité face aux nouvelles propositions. Ces revendications féministes sont remises en cause par l'artiste Michel Sardou, qui se trouve au centre d'une polémique sur sa chanson « Être une femme ». Une historienne remet en question dans son nouvel ouvrage « Le temps des féminismes, les déclinaisons du combat des femmes ». Et puis enfin en Angleterre, les prêtresses et évêques voient leur légitimité affaiblie par leur père. Sylvia Cavallini va nous en parler.
Oui Thomas, dans son article « Réforme de retraite, les femmes devraient travailler plus longtemps que les hommes », le site franceinfo.fr démontre cette nouvelle source d'inégalité vis-à-vis des femmes. Un rapport réalisé par le service de l'État témoigne de cette différence. Selon Olivier Dussopt, ministre du Travail, cette redistribution améliorerait les conditions plus précaires et réduirait l'écart entre les deux sexes. Pourtant, parmi ceux nés en 1972, les hommes partiront à la retraite avec 2 mois d'avance sur leurs collègues féminins. Et l'écart est encore plus frappant pour ceux en 1980, avec un supplément de 4 mois pour les hommes contre 8 pour les femmes. De plus, le report de l'âge légal à 64 ans réduirait aux femmes le droit au départ anticipé pour maternité.
Et dans ce contexte, Sylvia, une interview d'un chanteur français bien connu a fait réagir cette semaine.
Oui, invité sur BFM TV le 18 janvier, Michel Sardou est interrogé au sujet de sa chanson « Être une femme ». Cette dernière a reçu de nombreuses critiques de la part des femmes auxquelles il répond ainsi « Mais non, j'ai jamais été misogyne, j'adore les femmes ». Et il ajoute « Je ne suis pas féministe non plus, les féministes m'emmerdent, MeToo par exemple, c'est dangereux ». Le contre-coup ne tarde pas à arriver de la part de Sandrine Rousseau, députée d'Europe Écologie Les Verts, qui, sur BFM TV le 19 janvier, a exclamé qu'il nous laisse changer le monde car on en a absolument besoin.
Une historienne née avant la guerre retrace l'histoire des luttes féministes.
Et oui, si vous voulez mieux connaître l'histoire des luttes pour l'égalité, France Culture a interviewé le 20 janvier l'historienne émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris Cité, Michèle Perrault. Comment devient-on féministe ? Elle nous interroge sur les nuances de
ce mouvement. Son nouvel ouvrage « Le temps des féminismes » vient de sortir, coécrit avec Eduardo Castillo. Elle y retrace à travers un récit autobiographique toutes les étapes de la recherche historique que les femmes ont menées. Elle explique ainsi sa mission d'historienne. Nous ne voulions pas faire un ghetto de l'histoire des femmes pour les femmes, nous voulions essayer d'échanger le regard de l'histoire qui n'avait pas beaucoup pris en compte le rôle des femmes dans l'histoire. La présence du pluriel dans le titre de son œuvre renvoie aux différentes facettes de ses revendications, aux multiples luttes et interprétations du mot. Et pour en savoir plus, vous trouverez son podcast sur France Culture, intitulé « Histoire des femmes ».
Et jetons un œil à nos voisins d'outre-Manche à présent, Sylvia.
Cette semaine, le quotidien britannique The Guardian questionne la place des femmes dans les institutions religieuses. Why isn't there universal faith in female priests? Pourquoi il n'y a pas une confiance universelle aux égards des prêtresses? À la différence de l'Église catholique, l'institution religieuse anglaise, Church of England, a approuvé l'accès aux femmes à la prêtrise en 1992 et à l'achevé en 2014. Pourtant, les femmes sont encore exclues et peinent à être reconnues dans le milieu religieux. Philip North, nouvel évêque de Blackburn, est convaincu que les femmes n'ont pas leur place dans les hauts postes de l'Église anglicane. Ainsi, il refuse de recevoir le pain et le vin saint des mains d'une femme. Linda Hurcombe, fondatrice du mouvement For the Ordination of Women, ne compte pas baisser les bras et annonce « Les femmes prêtresses et évêques sont là et vont y rester ».
Merci Sylvia.
R.S.U.
Oriane, un nouvel invité nous a rejoint.
Bonjour Bertrand-Anne.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences d'histoire moderne à Sorbonne Université et spécialiste de la monarchie espagnole du XVIe et du XVIIe siècle. Et monarchie dont le royaume regroupe alors l'Espagne, les Pays-Bas et la moitié de l'Italie et qui est confrontée à ce moment-là à des guerres de religion. Selon vous, ces guerres de religion dépassent les frontières du royaume de l'Espagne, en tout cas ont une dimension internationale. Pourquoi ?
Elles ont une dimension internationale parce que les différentes croyances transcendent évidemment les frontières et viennent mettre en cause les liens d'obéissance pour le souverain, ce qui fait qu'elles sont par nature internationales et que des liens se créent entre les différents partis protestants et entre les forces catholiques en Europe, et le pouvoir royal en Espagne vient aider tout particulièrement les catholiques en France contre Henri IV au début de son règne.
Et est-ce que ces guerres de religion, elles peuvent trouver un écho dans nos sociétés contemporaines ?
Alors effectivement, pourquoi faire l'histoire de ces faits anciens, douloureux ? Tout d'abord parce que il y a une mémoire toujours de ces événements. L'Espagne est demeurée catholique, mais malgré tout, les remous protestants, enfin la tentation protestante qui a vraiment existé au XVIe siècle en Espagne a provoqué un renforcement de l'Inquisition, et donc ça fait partie de la mémoire de l'histoire espagnole. Pour ce qui est des Pays-Bas, ce sont des événements fondateurs. Hein, les Pays-Bas, qui étaient les héritiers du duché de Bourgogne, du grand duché de Bourgogne, se sont trouvés séparés, et aujourd'hui on a deux pays avec des mémoires nationales différentes. Donc on a cette mémoire tout d'abord, et pour le reste, si on part du point de vue très actuel, le problème c'est celui de la différence, du vivre ensemble, et de ce qui peut nous opposer. Et pour parler plus spécifiquement de la radicalité religieuse, alors elle anime peut-être moins la religion, enfin la famille chrétienne que la famille musulmane, mais malgré tout, c'est toujours quelque chose de très présent aujourd'hui, de savoir si on adopte une posture d'écoute, d'échange avec l'autre, ou si les identités religieuses doivent nous séparer, jusqu'à quel point. Donc cette radicalité religieuse, elle est toujours actuelle.
Et justement, la mémoire, ça passe aussi par l'enseignement de l'histoire. Et l'histoire nous est souvent enseignée comme une succession de conflits. Mais vous prenez le contre-pied en expliquant qu'il y a plus d'amitié et de négociation. Et donc, de ce fait, est-ce que l'amitié existe en politique ou bien est-ce que c'est davantage une question d'amitié entre les peuples ?
Alors l'amitié, elle existe, mais il faut savoir ce qu'elle recouvre. Donc c'est l'amitié telle que je l'ai étudiée, enfin telle que je l'ai saisie, c'est l'amitié qui se déploie avant l'époque romantique, on va dire. Il y a vraiment une grande rupture à partir de ce moment-là, qui est de l'ordre du sentiment, mais aussi du lien entre les individus. Donc l'amitié, pendant des siècles, c'est quelque chose qui a une utilité, qui doit servir à, tout simplement, à créer des liens là où ils n'existent pas. Donc quand il n'y a pas de lien du sang, eh bien, on peut se tourner vers ce lien qui est un lien qui est faible, qui peut être brisé constamment, mais qui se vit malgré tout tel que nous on décrit les liens d'amitié, c'est-à-dire sur un mode passionnel et comme un lien qui doit croître constamment. Et ce lien d'amitié, eh bien, il peut unir des marchands qui commercent ensemble. Il peut unir même les gens d'une même famille dans une transaction. Et puis, il inonde aussi le monde de la politique. Sachant que la politique, avant le 19e siècle, ce n'est pas une politique faite de partis qui défendent des partis pris et des idéaux, mais plutôt des partis d'individus. Donc des individus qui sont liés ensemble dans des réseaux de fidélité, et le lien qui les unit, tel qu'ils le désignent, c'est un lien d'amour, c'est un lien d'amitié, et c'est le lien qui est censé relier chaque sujet au souverain très, très directement, même si on a peu l'occasion de toucher le souverain. Et l'amitié est devenue un lien plus exclusif et dont les sentiments affichés doivent devenir plus sincères, ou même véritablement sincères, à partir de l'époque romantique. Donc de centaines d'amis, on est passé à 10 jusqu'à 20 amis, considèrent les sociologues aujourd'hui. C'est la norme pour l'amitié véritable qui est la norme aujourd'hui.
Et pour davantage se concentrer sur votre parcours, que représente la Sorbonne pour vous ?
Énormément. Donc j'y suis entré en 2008. Alors la Sorbonne, bah, c'est mon lieu d'enseignement, d'échange avec les étudiants, un lieu de partage des savoirs. Et c'est aussi une institution qui m'a permis de beaucoup évoluer dans la configuration de ce qu'est mon métier. Alors depuis l'origine, outre un lieu d'enseignement et aussi de recherche avec mes collègues et une plateforme vraiment pour mener des recherches à l'échelle internationale, c'est aussi le lieu où je pratique une activité sportive régulière pour ma plus grande joie, avec des étudiants. C'est un beau challenge. Et puis, progressivement, la configuration de mon activité a beaucoup évolué. Donc, je suis responsable de formation aussi. J'ai créé, avec des collègues de Sorbonne Université à Abu Dhabi, une formation pour tous les archivistes des Émirats Arabes Unis. C'est quelque chose c'est un projet qui a à peine 3 ans, donc qui est à ses premiers balbutiements, et on a beaucoup de succès, énormément d'étudiants. Et puis, depuis peu, j'ai pris d'autres responsabilités dans les conseils centraux, ce qui me donne une image très, très, très générale de ce qu'est l'université, de ses enjeux et de toutes les possibilités qu'on a malgré tout un contexte de réduction budgétaire qu'on connaît tous.
Bien, merci beaucoup Bertrand Hahn, maître de conférence à Sorbonne Université. On souligne que vous avez contribué à l'ouvrage « Histoire européenne des guerres de religion » à paraître chez Humain 6. Merci encore pour votre venue.
Merci à vous.
Merci Oriane, avec Bertrand Hahn dans Cours d'honneur, c'est l'heure du reportage.
C'est sans doute l'une des informations les plus capitales de ces dernières années.
Il est 20h, Moustique arrive à son bureau, et là, c'est le drame.
Ces dernières années, le vintage connaît un véritable retour en force. Les friperies se multiplient, les ventes de vinyles explosent, et une énorme pénurie a récemment touché le fabricant de pellicules Kodak, qui ne pouvait plus faire face à la demande. La photographie argentique a en effet su trouver un nouveau public, majoritairement jeune, qui y voit une alternative originale et décalée à la photographie instantanée sur smartphone. Retour sur les raisons d'un tel engouement, Marjolaine Mélon.
Comme beaucoup de jeunes autour d'elle, Margot, vingtenaire, étudiante en psychologie, s'est récemment lancée dans la photographie argentique et arpente les vide-greniers à la recherche d'appareils photo vintage.
Alors ça fait, je dirais, un peu moins d'un an que j'ai commencé la photographie argentique, mais je m'y suis vraiment mise cet été. Bah, ce que j'aime bien dans l'argentique, c'est le fait qu'on prend ses photos et qu'on les voit pas tout de suite. qu'on va les faire développer et en fait, on les verra peut-être au mieux 3 semaines après, sinon peut-être 6 mois après. Et du coup, on va redécouvrir des moments qu'on avait peut-être oubliés. Et c'est ça que j'aime principalement dans l'argentique, voilà, le fait d'attendre d'avoir sa photo et pas de l'avoir tout de suite comme sur le numérique.
Margot n'est pas la seule à s'être lancée dans la pratique de l'argentique. Hassan Komsan tient un petit kiosque sur le boulevard Saint-Michel près de la Sorbonne. Il y vend des appareils photo anciens, très demandés.
Mais l'autre, avec les pellicules 35, ok, il y a des étudiants, ils aiment bien l'acheter parce que c'est la mode. Ça fait 3 ans maintenant, c'est la mode. Ils n'aiment pas utiliser les numériques. C'est les jeunes, ils aiment bien acheter, mais c'est certaines, voilà, les petits là, parce que c'est moins lourd, ok, pour voyager. Mais là non, c'est de temps en temps, il y a des touristes, ils aiment bien acheter, ok, pour cadeau.
Du côté de Reportage Images, un laboratoire photographique tenu par des jeunes près de République, l'explosion de la demande pour faire développer des pellicules s'est clairement faite ressentir.
Ouais, on a remarqué une grosse augmentation en termes de chiffres. Tu vois, on est passé de 2000 à genre 10 000 clients en un an. Du coup, en ce moment, genre dans les nouveaux shooters, on n'a que des nouveaux clients. Il y a des gens qui reviennent, etc., mais il y a beaucoup de nouveaux clients. Même au niveau de la vente des pellicules, il n'y a plus de stock nulle part. Nous, on galère à choper des stocks, les stocks qu'on a, ils partent super vite.
Reportage Images est victime de son succès. Au retour des vacances d'été, les délais pour récupérer sa pellicule peuvent parfois atteindre jusqu'à 2 semaines.
De base, nous, on a un labo de quartier. Du coup, au début, en tout cas, quand je suis arrivé, c'était vraiment le restant des pros qui avaient trouvé ici un truc qu'ils aimaient bien. Du coup, ils venaient beaucoup. Il y a pas mal de lycées autour d'ici aussi, pas mal de collèges, tout ça. Même maintenant, il y a des collégiens qui viennent carrément faire développer des photos argentiques. Et après, vraiment, je sais pas trop. On a fait un peu de pub sur les réseaux et tout. Il y a pas mal de gens qui sont venus ici. Je sais que TikTok a beaucoup aidé à faire connaître ce lieu. Je crois qu'il y avait un TikTok qui tournait. Genre, il disait que c'était un bon labo et tout. Du coup, il y a du monde qui est venu.
Pour ce vendeur de reportage images, au-delà de promouvoir leur labo, les réseaux sociaux ont largement contribué à diffuser l'attrait pour la photographie argentique.
Moi, je pense que les réseaux, déjà, principalement, ça a beaucoup aidé. Il y a un moment, c'était genre en 2016, je crois, il y a Kylie Jenner, elle avait posté une photo où elle avait un AE1 dans les mains. Et après, le prix du AE1, il a augmenté à mort. Je pense que du coup, cette facilité d'acquérir de l'argentique, parce qu'au début, c'était vraiment pas cher. Vraiment, il y a 2-3 ans, les prix, c'était pas ça. Tous les appareils, tout, tu les chopais sur le bon coin à 5 balles. Ça a donné beaucoup d'intérêt aux gens de se mettre dans le truc et tout. Et puis, vu qu'on voit plus que ça sur les réseaux aussi, donc ça aide pas mal, quoi.
Mais les prix ne sont plus aussi intéressants aujourd'hui. Faire de la photographie argentique est désormais un petit luxe. Il faut en effet comprendre le prix de l'appareil photo, des pellicules, mais aussi le coût du développement. Pour Margot, c'est un sacrifice qu'elle est prête à faire.
Je pense que ça vaut le coup dans le sens où, si on peut se le permettre bien sûr, c'est chouette. Après, je pense que voilà, je ferai pas toutes mes photos en argentique et que le numérique a quand même aussi du bon, on va pas se mentir. Donc ça peut le valoir le coup, mais dans une certaine limite.
Finalement, ce coût que représente la photographie argentique donne une dimension de préciosité à chaque cliché qui est justement recherché par les adeptes de cette pratique.
On fait plus attention quand on prend sa photo plutôt que sur le numérique, on prend genre 40 000 photos du même truc. Alors que là, du coup, l'argentique, vu le prix des pellicules, on fait plus attention à ce qu'on prend en photo, quoi.
Le recours à la photographie argentique témoigne ainsi peut-être d'une lassitude vis-à-vis des clichés en rafale et des flux d'images que l'on rencontre tous les jours. Au-delà de l'intérêt artistique, faire de la photographie argentique, c'est aussi rechercher une certaine rareté. La quête du cliché unique est réussie.
Vous êtes toujours dans Cours d'honneur, c'était le reportage de Marjolaine, pas de pipeau dans Cours d'honneur, si ce n'est celui de Vladimir Cauchemar dans Holos avec son clip hypnotisant.
Thank you.
Cours d'honneur, l'émission sur Radio Campus Paris dédiée à la vie étudiante. Et un dernier invité nous a rejoint dans le studio de Cours d'honneur avec Elodie.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Bonjour Jean-Christophe Abramovici.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université Paris-Sorbonne, spécialiste de la littérature et de la civilisation du XVIIIe siècle. Vous avez notamment effectué des travaux d'édition et publié des ouvrages qui portent sur la sexualité, le genre, le corps et la médecine. Et aujourd'hui, nous vous recevons pour parler de votre dernier livre, intitulé « Les hystériques ». Pourriez-vous nous donner une définition de ce qu'est l'hystérie ?
Ah ben, j'ai justement fait ce livre, non pas pour chercher une définition, mais un petit peu pour voir qu'est-ce qu'on a appelé l'hystérie. Alors, c'est un mot qui remonte à l'Antiquité grecque, et qui a toujours désigné une maladie qui concernait l'utérus, qui est le mot d'où dérive hystérie, et donc une maladie qui concernait les femmes. Et ce qui m'a intéressé dans ce livre, qui est composé d'un essai et puis d'une série de chapitres médicaux, c'était justement de nous forcer à relire les textes médicaux sur l'hystérie et à voir comment ce discours évoluait depuis le XVIe siècle jusqu'à Charcot, et le livre est sous-titré « En attendant Freud », pour justement montrer que je ne m'intéresse pas, enfin je n'aborde pas l'hystérie d'un point de vue psychanalytique tel que Freud la définit.
Est-ce qu'on peut faire un lien entre cette vision très physique du corps et la vision de Freud de l'hystérie, ou dans ce cas-là c'est que c'est complètement différent ?
C'est effectivement assez différent, même si c'est bien sûr lié. Mais la grande différence, c'est que Freud va poser l'hypothèse que tous les maux que pouvaient présenter les hystériques avaient une origine psychique, avaient à voir avec l'histoire du sujet, et que c'était autour de la cure qu'il mettait en place avec ses patientes que ces symptômes pouvaient se lever. Et on en est resté un petit peu à cette idée que finalement l'hystérie était une maladie non pas complètement imaginaire, avec des effets réels, mais qui avait une origine psychique. Et ce dont on se rend compte en relisant les textes du passé, en donc mettant un petit peu entre parenthèses cette lecture freudienne, c'est que tous les mots que décrivent ces médecins correspondent néanmoins véritablement à des problèmes médicaux que rencontrent un grand nombre de femmes autour des douleurs de règles, autour de maux sur lesquels maintenant on met peut-être d'autres noms, l'endométriose. Et par exemple, c'est une des hypothèses que je pose à la fin de l'essai. Est-ce que ce qu'on appelle aujourd'hui l'endométriose, qui pose véritablement un problème, ne ressemble pas, ne présente pas des analogies avec ce qu'on a décrit pendant des siècles comme l'hystérie. Avec juste, je prends juste un exemple, les médecins anciens parlaient des voyages de l'utérus, d'un utérus voyageur qui se déplaçait dans le corps, tout en disant non, bien sûr, c'est faux, finalement, c'est en fait les liens qui se relâchent, etc. Or, l'endométriose se caractérise par une migration des tissus placentaires dans différentes autres parties du corps. Et donc présente véritablement des analogies assez troublantes avec l'hystérie ancienne. Et finalement, ça nous invite à relire de manière un peu plus sérieuse ces textes qui, au départ, peuvent nous sembler un petit peu baroques.
Mais aujourd'hui, le sens du terme hystérie, donc, est-ce qu'il est toujours le même ou...
On sait bien qu'il y a un emploi maintenant, je dirais, un peu vulgaire quand on va qualifier une femme d'hystérique ou une réaction d'hystérique, incapacité à maîtriser ses émotions, théâtralisation. Bon, ça c'est un emploi, oui, qu'on peut qualifier un petit peu de vulgaire. Il y a l'hystérie d'un point de vue psychanalytique, et puis... il y a cette hystérie ancienne qui est un petit peu oubliée aujourd'hui, mais dont je pose l'hypothèse que, en fait, on la retrouve sous d'autres noms et qui, voilà, l'avantage, la vertu de cette hystérie ancienne, c'est que quand même, elle permettait de prendre en compte ces mots féminins, que d'un point de vue féministe, à la fois on cherche à mettre en valeur, et en même temps pas trop, parce que bien sûr, il y a le risque, si jamais on prend systématiquement au sérieux les douleurs de règles ou d'autres mots proprement féminins, de reconduire une infantilisation ou une vision de la femme comme plus faible, comme malade. Donc bien sûr, ça c'est quelque chose dont il faut se garder, mais en même temps, il ne faudrait pas que, au nom d'une égalité, on mette entre parenthèses qui est une réalité de la vie de milliers et milliers de femmes.
Oui, parce que au XVIIIe siècle, on a un paradoxe, parce qu'en même temps, on voit que la femme devient un sujet d'étude, et en même temps, l'hystérie est aussi utilisée pour la reléguer dans la sphère privée. Donc, est-ce que les féministes ont dû combattre, finalement, le principe de l'hystérie ?
Oui, tout à fait. Et vous avez tout à fait raison d'insister sur le XVIIIe siècle, parce que c'est une période où, à la fois, on essaye de tordre le cou à un certain nombre de mythes, comme par exemple que le sang menstruel serait un sang vénéneux. Et donc on dit non, c'est un sang tout à fait naturel. Mais c'est pour aller dans le sens, effectivement, d'une femme qui serait complètement harcelée par la marâtre nature et qui serait si faible qu'elle ne serait pas en état, effectivement, de, au même niveau que l'homme, prendre sa place dans la sphère publique. Et la privation des droits politiques qui va résulter de la Révolution est un petit peu une conséquence de cette évolution des imaginaires et des discours scientifiques qui ont lieu au XVIIIe siècle. Et donc, le discours féministe qui va, premièrement, bien sûr, se battre pour une égalité des droits et une pleine égalité politique entre hommes et femmes, va forcément avoir tendance à minimiser ces éléments qui avaient contribué à l'exclusion des femmes de la sphère publique. Donc je dirais que le discours féministe est nécessairement dans une position un peu ambivalente par rapport à ces thèmes.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Christophe Abramovici, professeur à l'université Paris-Sorbonne, spécialiste de la littérature et de la civilisation du XVIIIe siècle, auteur du livre paru en début de cette année scolaire 2022, Les hystériques en attendant Freud.
Je vous remercie.
Jean-Christophe Abramovici au micro RSU de l'Odine dans Cours d'honneur. On retrouve un nouveau reportage.
C'est sans doute l'une des informations les plus capitales de ces dernières années.
Il est 20h, Moustique arrive à son bureau et là, c'est le drame.
Ces dernières années, le vintage connaît un véritable retour en force. Les friperies se multiplient, les ventes de vinyles explosent et une énorme pénurie a récemment touché le fabricant de pellicules Kodak qui ne pouvait plus faire face à la demande. La photographie argentique a en effet su trouver un nouveau public, majoritairement jeune, qui y voit une alternative originale et décalée à la photographie instantanée sur smartphone. Retour sur les raisons d'un tel engouement, Marjolaine Milon.
Comme beaucoup de jeunes autour d'elle, Margot, vintenaire, étudiante en psychologie, s'est récemment lancée dans la photographie argentique et arpente les vide-greniers à la recherche d'appareils photo vintage.
Alors ça fait, je dirais, un peu moins d'un an que j'ai commencé la photographie argentique, mais je m'y suis vraiment mise cet été. Ce que j'aime bien dans l'argentique, c'est le fait qu'on prend ses photos et qu'on ne les voit pas tout de suite, qu'on va les faire développer et qu'on les verra peut-être au mieux 3 semaines après, sinon peut-être 6 mois après. Et du coup, on va redécouvrir des moments qu'on avait peut-être oubliés. Et c'est ça que j'aime principalement dans l'argentique. Voilà, le fait d'attendre d'avoir sa photo et pas de l'avoir tout de suite comme sur le numérique.
Margot n'est pas la seule à s'être lancée dans la pratique de l'argentique. Hassan Komsan tient un petit kiosque sur le boulevard Saint-Michel près de la Sorbonne. Il y vend des appareils photo anciens, très demandés.
Mais l'autre, avec les pellicules 35, okay, il y a des étudiants, ils aiment bien l'acheter parce que c'est la mode. Ça fait 3 ans maintenant, c'est la mode. Ils n'aiment pas utiliser les numériques. C'est les jeunes, ils aiment bien acheter, mais c'est certain. pas là, les petits là, parce que c'est moins lourd, ok, pour voyager. Mais les, là non, c'est de temps en temps, il y a des touristes, ils aiment bien acheter, ok, pour cadeau.
Du côté de Reportage Images, un laboratoire photographique tenu par des jeunes près de République, l'explosion de la demande pour faire développer des pellicules s'est clairement faite ressentir.
Ouais, on a remarqué une grosse augmentation en termes de chiffres. Tu vois, on est passé de 2000 à genre 10 000 clients en un an. Du coup, en ce moment, genre dans les nouveaux shooters, on n'a que des nouveaux clients. Il y a pas, y a des gens qui reviennent, etc., mais il y a beaucoup de nouveaux clients. Même au niveau de la vente des pellicules, il n'y a plus de stock nulle part. Nous, on galère à choper des stocks, les stocks qu'on a, ils partent super vite.
Reportage Image est victime de son succès. Au retour des vacances d'été, les délais pour récupérer sa pellicule peuvent parfois atteindre jusqu'à 2 semaines.
De base, nous, on a un labo de quartier. Du coup, au début, en tout cas, quand je suis arrivé, c'était vraiment le restant des pros qui avaient trouvé ici un truc qu'ils aimaient bien. Du coup, ils venaient beaucoup. Il y a pas mal de lycées autour d'ici aussi, pas mal de collèges, tout ça. Même maintenant, il y a des collégiens qui viennent carrément faire développer des photos argentiques. Et après, vraiment, je sais pas trop, on a fait un peu de pub sur les réseaux et tout, il y a pas mal de gens qui sont venus ici. Je sais que TikTok a beaucoup aidé à faire connaître ce lieu. Je crois qu'il y avait un TikTok qui tournait, genre il disait que c'était un bon labo et tout, du coup il y a du monde qui est venu.
Pour ce vendeur de reportage images, au-delà de promouvoir leur labo, les réseaux sociaux ont largement contribué à diffuser l'attrait pour la photographie argentique.
Moi, je pense que les réseaux, déjà, principalement, ça a beaucoup aidé. Il y a un moment, genre c'était genre en 2016, je crois, il y a Kylie Jenner, elle avait posté une photo où elle avait un AE1 dans les mains, et après le prix du AE1 il a augmenté à mort. Je pense que du coup cette facilité d'acquérir de l'argentique, parce qu'au début c'était vraiment pas cher, vraiment il y a 2-3 ans les prix c'était pas ça, tous les appareils, tout tu les chopais sur le bon coin à 5 balles, ça a donné beaucoup d'intérêt aux gens de se mettre dans le truc et tout, et puis vu qu'on voit plus que ça sur les réseaux aussi, donc ça aide pas mal quoi.
Mais les prix ne sont plus aussi intéressants aujourd'hui. Faire de la photographie argentique est désormais un petit luxe. Il faut en effet comprendre le prix de l'appareil photo, des pellicules, mais aussi le coût du développement. Pour Margot, c'est un sacrifice qu'elle est prête à faire.
Je pense que ça vaut le coup dans le sens où, si on peut se le permettre bien sûr, c'est chouette. Après, je pense que je ferai pas toutes mes photos en argentique et que le numérique a quand même aussi du bon, on va pas se mentir. Donc ça peut le valoir le coup, mais dans une certaine limite.
Finalement, ce coût que représente la photographie argentique donne une dimension de préciosité à chaque cliché qui est justement recherché par les adeptes de cette pratique.
On fait plus attention quand on prend sa photo plutôt que sur le numérique, on prend genre 40 000 photos du même truc. Alors que là, du coup, l'argentique, vu le prix des pellicules, on fait plus attention à ce qu'on prend en photo, quoi.
Le recours à la photographie argentique témoigne ainsi peut-être d'une lassitude vis-à-vis des clichés en rafale et des flux d'images que l'on rencontre tous les jours. Au-delà de l'intérêt artistique, faire de la photographie argentique, c'est aussi rechercher une certaine rareté, la quête du cliché unique et réussi.
Et c'est ainsi que se termine Cours d'honneur, épisode 15. Vous l'avez entendu, très riche cet épisode spécial réalisé par les étudiantes participant à l'atelier radio au sein de la Sorbonne, la faculté de lettres. Merci à Cilia, Laudine, Sylvia, Oriane, Marjolaine. Merci les filles d'avoir participé à cette émission. On se revoit le mois prochain. Bon ça marche. Merci surtout au service culturel pour son soutien. On se retrouve dans un mois. D'ici là, restez curieux, soyez fous et n'oubliez pas, tout est possible. Ciao.
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ah, ça va tout changer parce qu'en plus j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était dans sa chambre, sur son lit ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.